19h sur les ondes de campus. Tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien dans le sous-marin. Nous sommes ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité angevine, une actualité marquée notamment par une manifestation qui a eu lieu mercredi dernier, une manifestation qui s'est tenue à l'appel de la coordination migrants, dont vous faites partie, Martine Pastot. Bonsoir.
Bonsoir. Non, Soleil Carnot ne fait pas partie de la coordination migrante, je suis désolée. La coordination migrante regroupe quelques associations, mais là nous étions beaucoup plus largement représentés puisqu'une trentaine d'associations, partis politiques et syndicats étaient présents à nos côtés.
Donc avec vous, on va discuter des migrants à Angers, mais aussi de l'hébergement d'urgence, un point trop souvent oublié. Comme d'habitude, on va vous proposer également des chroniques et des reportages. Et tout de suite, on va commencer avec Yann.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors Yann, en bon journaliste, tu as appliqué le principe du contradictoire. Forcément, on a appelé la préfecture, tu as appelé la préfecture.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas évident d'appeler la préfecture et de les joindre. On a essayé une fois, deux fois, on est tombé sur un répondeur, on est tombé ensuite sur un service qui nous a renvoyé à un autre service. On vous a contacté, concocté un petit extrait de cet essai de joindre la préfecture. D'accord, merci.
Bonjour, vous êtes en...
de Maine-et-Loire, bonjour.
Oui, bonjour madame, Yann Thézé de Radio Campus Angers. Je vous appelle car en fait, voilà, on organise une émission sur les migrants et l'accueil des migrants ce soir sur Radio Campus Angers.
Un instant,
D'accord, merci.
Je passe le service.
Bonjour, vous êtes en communication.
Service communication.
Oui, bonjour madame, Yann Thézé de Radio Campus Angers.
Oui, bonjour.
Bonjour, je vous contacte parce que ce soir on fait une émission sur les migrants et l'accueil des migrants. On aurait aimé savoir si quelqu'un de la préfecture pouvait se déplacer, venir dans l'émission de ce soir.
Mais quand vous parlez de migrants, vous parlez des demandeurs d'asile, des réfugiés.
Voilà,
des
réfugiés.
Relocalisés de Calais, parce que c'est autant de cas différents et autant de procédures différentes les concernant. Donc on ne peut pas tout mettre dans la boîte.
On va parler de ce qui s'est passé, surtout par rapport à la manifestation et de l'accueil des vingtaines de migrants qui viennent de Calais et qui sont à l'AFPA, enfin ce genre de choses.
Ouais, je vérifie, surtout qu'en plus il aurait fallu pouvoir préparer des chiffres, etc. Ça me paraît très compromis, mais malgré tout, alors attendez. Donc la préfète déjà c'est non, le secrétaire général, bah non plus, et puis la directrice de cabinet. Bah non plus, ça va pas coller. Bon, en tout cas, on prend bonne note donc de l'émission. Elle est en direct ?
Oui, c'est en direct, oui. Par exemple, est-ce que vous pourriez là tout de suite avoir quelqu'un pour en parler très rapidement, pour avoir un peu l'avis de la préfecture ou pas du tout ?
Bah non, le souci c'est que les gens ont des engagements.
Bien sûr, ouais.
Et puis il aurait fallu que vous nous proposiez vos questions, qu'on puisse savoir s'il y a des chiffres. Voilà, là ça me paraît au débeauté très très compliqué à gérer. Ah bah non, tout le corps préfectoral est en réunion déjà.
D'accord.
Là. Non, là c'est vraiment pas possible. Bah écoutez, je vous remercie.
Merci à vous. Alors Martine Pastot, on entendait donc les services communication de la préfecture nous dire qu'il y avait différentes catégories de migrants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on classifie les migrants et comment d'ailleurs ?
Alors oui, tous les gens sont migrants, hein, bien sûr. Alors après, il y a différentes catégories. Il y a les demandeurs d'asile. On va prendre des cas très simples, hein. Par exemple, les personnes qui arrivent actuellement de Syrie, donc qui fuient la guerre ou d'Érythrée ou de Somalie, enfin, n'importe quelle région. Donc ils arrivent en France pour demander l'asile politique, puisque c'est le seul asile qui existe. Là, donc, ils sont normalement pris en charge, hébergés, perçoivent l'ADA pendant toute la durée enfin de passage à l'OFPRA jusqu'à à la CNDA s'ils ont été déboutés à l'OFPRA. L'OFPRA, donc, c'est le premier organisme qui les écoute et les entend et peut décider donc s'ils obtiendront le statut de réfugié ou non. S'ils n'obtiennent pas statut de réfugié, ils peuvent faire appel à une deuxième cour, donc qui est la CNDA, et qui là aussi accepte ou refuse. Ensuite, donc, depuis quelques temps, c'est assez récent, quand les gens sont refusés la première fois à l'OFPRA, ils doivent quitter les lieux d'hébergement dans lesquels ils sont. Et peuvent continuer à faire des recours, parce qu'on peut toujours avoir des possibilités de recours au FPRA, CNDA, mais non plus d'hébergement et ne perçoivent plus aucune indemnité alors qu'ils sont toujours dans un système relativement légal. Donc ça, c'est une situation quand même assez récente, puisque jusqu'à présent, les gens pouvaient rester plus longtemps dans les hébergements. Ensuite, donc, il y a effectivement les migrants déboutés. Alors, on ne les considère plus comme demandeurs d'asile puisqu'ils sont déboutés, qu'ils n'ont plus aucun droit que celui de repartir éventuellement dans leur pays, sachant que, bien sûr, personne n'a envie de repartir. Le nombre de migrants qui repartent est très faible parce que les gens ont souvent effectivement eu des problèmes dans leur pays, mais n'ont pas pu forcément apporter les preuves ou justifier. On sait bien que le bourreau donne rarement un blanc-seing à la personne qui a été agressée. Donc pour ces personnes-là, c'est effectivement extrêmement difficile parce qu'eux sont sans ressources, sans hébergement la plupart du temps, et on les retrouve donc à ce fameux 115 Rouchy, où ils peuvent être hébergés la nuit s'il y a de la place. Rouchy ouvre, je crois, à 20h30 ou 21h, donc on peut appeler toute la journée, mais on ne rentre pas avant, avec des priorités qui sont en premier lieu les familles à 21h30, je crois, 20h30 ou 21h, ensuite les hommes, et à 21h30, 22h, éventuellement les femmes seules. Or, actuellement, c'est un réel problème, puisqu'il n'y a pas de place à Rouchy pour tout le monde. En plus, c'est un lieu quand même pas extraordinaire. Il y a beaucoup de... Il y a eu pas mal de problèmes de maladies, style la gale, style les puces. Voilà, l'hygiène n'est pas prédominant. Il y a une grande promiscuité. Et puis, un certain nombre de personnes, le soir, restent dehors. Donc, ceux-là dorment à la gare, sous les ponts. Parfois, les veilleurs de nuit, les associations qui veillent, on les appelle les veilleurs, nous. Il y a des gens de la LDH, il y a des personnes qui n'appartiennent pas à des associations, essaient de leur trouver une chambre d'hôtel ou quelque chose, surtout quand il y a des familles, des enfants, parce qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué de passer l'hiver dehors.
Alors, nous, en particulier Yann, tu as eu du mal à rentrer en contact avec la préfecture. Comment ça se passe pour vous en tant qu'association ? On vous écoute plus, on vous écoute encore moins ?
Alors, je ne sais pas si on nous écoute ou on ne nous écoute pas. On n'arrive pas à avoir de contact. Bien sûr, les contacts sont très difficiles. On essaie par mail. Alors, parfois, quelqu'un nous répond. Parfois, on ne nous répond pas. Madame la préfète, depuis son arrivée, n'a pas daigné nous recevoir. Elle a été sollicitée par toutes les associations et jusqu'à présent a refusé de nous recevoir. On ne comprend pas très bien pourquoi, parce que même son prédécesseur, qui n'était pas quelqu'un de particulièrement accueillant, nous avait reçu une première réunion, même si ça a été pour nous préciser qu'il ne nous recevrait plus jamais. Là, on n'a rien, donc on ne sait pas du tout quel est son fonctionnement. La seule chose qu'on puisse dire un petit peu en sa faveur, je dirais quand même, c'est que certains dossiers se sont un petit peu débloqués, des dossiers qui avaient un an et demi de retard. Et on a eu l'impression, au mois de décembre, d'une petite accélération, comme si on voulait un petit peu remettre à jour les documents. Mais au niveau documentation, contact, non, il n'y a rien, on ne nous répond pas à nos mails, c'est même pas la peine d'appeler. Moi, je travaille parfois dans d'autres départements et on voit des situations extrêmement différentes où les gens nous répondent très aimablement, nous conseillent, nous donnent les dossiers nécessaires. Ici, c'est très difficile. Je pense que volontairement, on cherche à boucler effectivement toute la communication.
Le sous-marin revient dans moins de 5 minutes. On continuera à parler avec vous, Martine Pastot, de la situation des migrants à Angers et de l'hébergement d'urgence.
Today we're taking a look at the politics of immigration, the intersections of immigration, immigration social movements. Again, the obvious question
has always been a reason for excluding immigrants. Migrants. Migrants.
What the connection is between immigration politics, immigration policy, and...
It occurs on a number of levels. This issue of exclusion.
19h14 sur Campus, vous êtes toujours dans le sous-marin. À l'instant, vous venez d'écouter le titre Issues of Exclusion par The Incognito Traveler. Et tout de suite, on va continuer de parler de la question des migrants et de l'hébergement d'urgence avec Martine Pastot. Pour ça, Mélissa, tu es allée faire un reportage, tu es allée te balader dans les rues d'Angers pour savoir... tu vas nous expliquer d'ailleurs, ça va être plus simple.
Et j'ai été place du ralliement pour aller demander un petit peu aux Angevins qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils connaissaient, de quoi ils étaient au courant sur la situation des migrants à Angers. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément au courant, parce qu'on parle beaucoup des migrants en France, mais à Angers, on ne s'en rend pas forcément compte.
On écoute ça tout de suite, peut-être ?
Oui. Qu'est-ce que vous connaissez au sujet de la situation des migrants à Angers aujourd'hui ?
Je sais qu'on en voit de plus en plus. Enfin, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a peut-être de ça 2 ans, d'en héberger, puisque j'avais une maison qui me le permettait. Après, au niveau de tout ce qui est possibilité d'hébergement, je sais qu'il y a des petites choses qui se font, justement, puisque je suis un peu l'évolution de la famille que j'ai pu héberger.
Pas grand-chose, on parle jamais de ça, en fait.
Moi, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment.
Alors là, moi, rien du tout. Ouais, on n'a pas eu beaucoup d'infos là-dessus, en fait. Ouais.
À Angers, j'en ai aucune idée.
Je les vois souvent dans les autres villes, mais à Angers, vraiment aucune idée.
Des migrants à Angers ? À Angers, je sais pas, à Paris, un peu plus.
Moi, je savais pas du tout qu'il y avait des migrants à Angers, parce qu'on entend beaucoup parler des autres, enfin, dans les autres villes, mais à Angers, Paris, en tout cas, non. Ouais.
Apparemment, les Angevins ne sont pas énormément au courant. Pour vous, Martine Pastot, qu'est-ce qui fait que, justement, personne, ou en tout cas des personnes interrogées, ne soient vraiment au courant de la situation ?
Eh bien, peut-être que parce que, finalement, il n'y a pas tant de migrants que ça. Contrairement à ce qu'on peut bien nous vouloir dire, qu'on déborde, qu'on fait des appels d'air. Je pense que, finalement, les gens sont discrets et qu'il n'y a pas plus de migrants, peut-être même moins que dans certaines autres villes de France. Il y a aussi beaucoup d'associations, quand même, en Maine-et-Loire, qui prennent en charge, enfin qui aident les migrants. Il est vrai qu'on les voit, ce sont des gens qui restent toujours dignes, même je parlerai des sans-abri, des déboutés, des gens qui n'ont rien, ce sont des gens qui restent dignes. Et quand on les connaît, qu'on les approche, on est très surpris de voir toujours qu'ils sont très propres, très bien tenus, les douches sont utilisées, et ça c'est vrai qu'on ne peut pas trop les remarquer, à part peut-être les gens de couleur qu'on peut remarquer un peu plus, hein, parce qu'il y en a peut-être un peu plus qu'il y a quelques années. Mais moi, je suis surprise de cette dignité. Je trouve ça très, très important, parce qu'effectivement, les gens ne se laissent pas aller, même si c'est difficile, même si moralement, ça pose beaucoup de problèmes, même si psychologiquement, certains sont très atteints. On a cet aspect dignité, et je pense qu'effectivement, les gens dans les rues ne peuvent pas trop les remarquer, bon, sauf s'ils vont vers la gare le soir, ou vers Rouchy, mais bon, c'est pas forcément des lieux que les gens fréquentent.
C'est pour ça que malheureusement, on les appelle souvent les invisibles.
Voilà, je pense qu'effectivement, on peut les appeler les invisibles, oui. À part des contrôles policiers ciblés, effectivement, on ne peut pas trop les remarquer, je pense, oui.
Thibault ? Non, tu n'avais pas de questions. Oh, je te prends au dépourvu.
Non, dire oui, je suis désolé.
Tu ne suivais pas. C'est pas grave, on t'en veut pas. Non, je voulais savoir la relation avec les médias. Est-ce que ça joue ? Est-ce que vous êtes suivi ? Parce que c'est peut-être aussi pour ça que les Angevins ne sont pas vraiment au courant. Je prends l'exemple de la manifestation de mercredi dernier. Il me semble qu'à part Angers Mag et un tout petit article dans l'Ouest de France et le travail de Campus, il n'y a pas eu grand-chose.
Non, il n'y a pas eu. Effectivement, moi je constate que depuis quelques années, je ne sais pas si c'est volontaire de la part des médias, mais nous sommes effectivement beaucoup moins aidés et ils sont beaucoup moins présents. Lorsque l'on organise des manifestations ou lorsque l'on organise des réunions, on les convoque, tout le monde est convoqué bien sûr, mais on les voit très très peu. Je vais citer un exemple qui est très frappant et qui pour moi était très choquant. Un jour, on leur a demandé de venir à la LDH et à SOS Femmes pour une jeune femme algérienne qui avait été très maltraitée par son mari, mais vraiment très, très maltraitée. Et on voulait faire un sujet sur elle pour peut-être lui permettre de récupérer une carte de séjour que, malheureusement, elle méritait bien de garder puisqu'elle était une victime uniquement. Et en fait, le jour de la réunion qui se tenait à SOS Femmes, nous n'avons vu aucun journaliste. Personne n'est venu. Ça n'intéressait visiblement personne. C'est vrai que le sort des femmes maltraitées en France n'est déjà pas très bien pris en compte. Alors, je ne parle même pas de celui des femmes étrangères qui, elles, sont complètement délaissées et que l'on renvoie. On leur enlève purement et simplement leur titre de séjour. Elles n'ont qu'une protection. Voilà, ça, c'est vraiment désolant. Nous, on en abrite un certain nombre en espérant un jour que leur douleur et leur souffrance soient enfin prises en compte.
Yann, vu que, enfin, j'imagine que vous privilégiez le terrain à la communication, mais j'ai vu que en baladant sur les sites pour se renseigner, par exemple sur Soleil 49, on a du mal à trouver des informations sur Internet, sur l'association. Est-ce qu'il n'y a pas justement un petit souci de communication dans ces actions-là envers les médias, mais pas que, envers aussi les Angevins et
oui,
les
alors nous personnellement, nous n'avons pas de site. Nous cherchons quelqu'un pour nous faire un site. Voilà, s'il y a quelqu'un de bénévole, parce qu'effectivement nous sommes une association avec peu de moyens financiers. Donc, vous savez bien que créer un site, ce n'est pas gratuit. On a ouvert une page Facebook là, qui est en cours d'ouverture, mais moins intéressante, effectivement, qu'un site. Voilà, on attend un informaticien. Si quelqu'un m'entend et si quelqu'un est prêt à venir créer un site, il sera le très bienvenu. Parce qu'effectivement, c'est très important de pouvoir d'abord donner des informations sur notre association. Mais bon, les gens nous connaissent plutôt assez bien Angers et viennent facilement. Le bouche-oreille fonctionne très bien. Mais il y a des informations, effectivement, aussi au niveau légal, législatif, en fait, qui seraient aussi très importantes à noter, à indiquer ou renvoyer sur des sites officiels, quoi, tout simplement. Et nous, personnellement, nous n'avons pas ces moyens-là encore. Nous fonctionnons qu'en bénévolat.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas tant que ça de migrants à Angers. Qu'est-ce que vous constatez dans votre travail associatif au quotidien ? La réalité du terrain, c'est quoi pour vous ? Parce qu'on imagine qu'il y a les migrants, mais il y a aussi toutes les personnes qui ont besoin d'un hébergement d'urgence, qui ne sont pas forcément migrants. Qu'est-ce que vous constatez ?
Alors, pour nous, oui, il y a sans doute un petit peu plus de migrants qu'il y a quelques années, mais je ne suis pas certaine, je ne connais pas les chiffres exacts, c'est certain, mais je pense que c'est surtout la lenteur de l'administration qui fait que ces gens sont à la rue et traînent longtemps avant d'être ou régularisés ou non régularisés. Je vois par exemple les dossiers où autrefois en 3-4 mois, on arrivait à traiter des situations, maintenant il nous faut parfois un an et demi. Nous avons le cas au mois de décembre de deux personnes suite à des demandes de régularisation de circulaire Valls. Nous avons les réponses au mois de décembre alors qu'on les avait déposées plus d'un an auparavant. Et effectivement, cet embouteillage au niveau de la préfecture, alors je ne sais pas s'il est volontaire, s'il manque de personnel, je croirais quand même assez bien à une volonté de laisser les gens dans la précarité. Je crois que c'est une façon peut-être de les décourager. Du coup, effectivement, ça fait un petit peu embouteillage dans nos associations parce que ces gens attendent.
C'est quoi le chemin ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour essayer de faire régulariser quelqu'un ? Parce que j'imagine que la navette administrative doit être assez impressionnante.
La navette administrative n'est pas si impressionnante que ça parce que, bon, il faut trouver... quand les gens n'ont pas eu la demande d'asile, hein, parce que s'ils ont une demande d'asile, s'ils ont obtenu la protection générale ou subsidiaire, donc pour nous, on ne s'en occupe plus ou très peu. Hein, on ne garde que des relations amicales, souvent après. Là, ils sont pris en charge par l'État, ils sont considérés comme les Français ont les mêmes droits que les Français. Après, la grosse difficulté, c'est effectivement la régularisation des gens qui ont été déboutés. Donc, pour ça, il peut y avoir, il y a des situations différentes, bien sûr. Donc, il y a, par exemple, je vais donner la plus simple à mettre en place, c'est la régularisation dans le cadre de la circulaire Valls. Donc, il nécessite 5 ans de présence en France pour les familles et d'avoir des enfants scolarisés. Dans ce cas, quand les gens rentrent dans les clous, va-t-on dire, avec des bons arguments, on arrive pas trop mal, je veux dire pas tous, mais pas trop mal à régulariser les gens. Donc ça, mais par contre, actuellement, c'est à peu près un an pour le dossier, alors que ça devrait être 3-4 mois maximum. Après, on a aussi des régularisations quand les gens arrivent, qu'ils sont demandeurs d'asile, sont souvent des gens seuls, des femmes ou des hommes seuls. Et puis, entre-temps, ils font leur vie. Ils rencontrent, c'est normal, un conjoint, une conjointe. Ils ont des enfants, voilà. Et là, ça se complique parce qu'effectivement, quand il y a des enfants, renvoyer une femme ou renvoyer un père ou une mère, c'est un petit peu compliqué. Alors, on essaie, bien sûr, d'amener la régularisation aussi. Alors, généralement, la première année, les gens sont déboutés, mais on ne les expulse pas trop. Ça peut arriver. Ils sont menacés d'expulsion, mais bon, on a eu la chance jusqu'à présent que ça ne se fasse pas trop à Angers. Et puis, au bout d'un, quand ils ont 2 ou 3 enfants, on finit par obtenir la régularisation de la personne. Voilà. On a aussi des régularisations un petit peu exceptionnelles, en particulier pour les Guinéens, les Maliens, où la pratique de l'excision est quelque chose de très courant chez les petites filles. Et donc là, lorsque les gens ont une petite fille, on peut demander la protection au niveau de l'OFPRA pour que cette petite fille, effectivement, en cas de retour, ne retourne pas dans son pays et ne soit pas excisée. Donc là-dessus, ça permet aussi certaines régularisations, bien sûr, pour certaines familles. Parce qu'il faut beaucoup de temps entre le début et la fin de demande d'asile. Il y a beaucoup de temps et les vies se passent, les gens se rencontrent, les gens vivent, ce qui est normal. Donc voilà, ça met beaucoup de temps. Après, il y a aussi des gens qui, à force d'être comme ça, à la rue, dans des situations difficiles, sont psychologiquement très atteints. Donc certains obtiennent des statuts d'étranger malade ou parce qu'ils ont aussi des maladies tout à fait particulières et qui ne peuvent pas être soignées dans leur pays. Mais là aussi, ça devient extrêmement difficile d'obtenir un statut d'étranger malade parce qu'on estime qu'à partir du moment où le médicament peut être peut être produit dans le pays, donc ils peuvent aller se faire soigner chez eux. Sauf souvent, l'accès aux soins n'est pas possible. Et on a le cas de gens atteints de cancer, donc en chimiothérapie, où on leur dit « retournez chez vous ». Là-bas, on peut faire des chimiothérapies, il n'y a pas de problème. Sauf qu'effectivement, s'ils retournent, dans 6 mois, ils seront morts. Parce qu'ils n'auront pas l'accès aux soins et il n'y a pas les soins équivalents chez nous. Voilà. Donc il y a plein de petites de solutions un petit peu. Voilà, il faut trouver la bonne adaptée à la famille, quoi, ou aux personnes. Parce que ce ne sont pas que des familles non plus qui sont présentes et sans papier.
Hugo, tu avais aussi une question pour Martine Pasto. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Soleil 49.
Que font ces gens? Vous avez dit qu'il y avait à peu près un an entre le moment où la demande était faite et où ils étaient officiellement réfugiés. Que font ces gens? Donc vous avez dit qu'ils faisaient leur vie, mais réellement, ils font quoi? Ils sont reçus toujours dans ces centres, ils sont à la rue ou...
Ils sont à la rue, ils n'ont plus de statut, hein, puisqu'ils n'ont pas de titre de séjour, donc ils n'ont plus de statut. Ils sont effectivement... certains dorment à Rouchy. Et dans la journée, sont à la rue, hein, même avec des petits-enfants par tous les temps. On a eu, nous, l'exemple d'une petite fille qui, à l'âge de 2 ans, ne marchait pas. On s'était inquiété. Et finalement, c'était uniquement par le fait que les parents étaient restés pendant très longtemps à Rouchy, que cette petite fille n'avait pas eu l'occasion d'être mise debout de la naissance jusqu'à 2 ans, pratiquement, toujours en poussette, pour s'abriter dans les grandes surfaces. Et le jour où on a pu les héberger dans des hébergements que nous avons, cette petite fille s'est mise à marcher et tout est redevenu normal. On voit très bien, nous, la dégradation des gens en très peu de temps. Quand les gens sont déboutés de tout, donc ils devraient en partie repartir, mais ils n'ont pas envie de repartir parce que ce n'est pas facile chez eux. Hein, on ne vient pas par plaisir, on ne quitte pas un pays par plaisir. Soit c'est la guerre, soit ce sont des problèmes politiques, soit c'est de la vendetta, enfin, toutes sortes de choses. Effectivement, c'est très difficile. Ils sont démolis. Et nous, on les voit passer en quelques mois. On leur donne une dizaine d'années de plus, tellement ils sont épuisés, fatigués, découragés, psychologiquement atteints. D'ailleurs, un jour, je vais appeler un médecin en lui demandant ce qu'on pouvait faire pour cette personne. Et ce médecin m'a répondu, écoutez, si la préfecture était un peu plus humaine et un peu plus raisonnable, ces gens ne seraient pas malades. On n'aurait pas besoin de les soigner et de les envoyer chez des psychiatres régulièrement. Donc ça prouve bien que cet état, le fait de les maintenir ainsi dans un état de très grande précarité les rend malades, effectivement. C'est très difficile. Et quand on arrive à trouver un hébergement, même si leur histoire n'est pas réglée, on voit le changement parce que les gens ont un toit, ils ont où se poser, ils ont mangé correctement, parce que même s'ils sont hébergés à l'hôtel par la préfecture, ça peut arriver quand il y a des enfants, dans un hôtel, vous ne pouvez pas faire à manger. Donc les enfants, ça veut dire que les enfants ne mangent quoi? Gâteaux, sucreries, soda, il n'y a pas de boisson saine, il n'y a pas de repas. Il n'y a rien. Nous, on essaie au niveau de l'association Soleil 49, avec une subvention de la mairie d'Angers, de payer la cantine des enfants scolarisés en primaire, maternelle, afin que le midi, ils puissent avoir au moins un repas chaud et un repas équilibré. Parce que si le soir, vous retrouvez l'hôtel et que vous n'avez que des gâteaux, hein, on ne voit pas très bien ce qu'on peut manger autrement, ou quelques sandwichs, mais quand on a 2 ans, ce n'est pas très facile. Ça leur permet au moins d'avoir un repas par jour. Ça, c'est un accord que l'on avait passé avec l'ancienne municipalité et avec Rose-Marie Véron, que je remercierai beaucoup encore aujourd'hui, et Frédéric Beatz, parce que pour nous, ça a été très important au niveau humain et pour que en plus, ces enfants-là ont été pris en compte et en charge.
Toujours pour parler de l'hébergement, on l'a évoqué hein, tout à l'heure à plusieurs reprises, Rouchy, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation là-bas et les conditions d'hébergement?
Alors, ce sont des bungalows, hein, ce sont, d'extérieur, c'est propre, hein, c'est correct. Effectivement, quand on voit les grilles, ça fait un peu penser, je vais être un peu dur sur les mots, mais à un camp de concentration, hein. Il y a le vigile à la porte qui laisse rentrer les gens ou pas. Les gens téléphonent dans la journée, donc lui a sa liste, laisse rentrer ou pas rentrer les gens. Si la personne une personne arrive et a eu le malheur de ne pas appeler avant ou de ne pas avoir réussi à joindre, parce qu'il est extrêmement... pour y faire l'essai dans une journée d'appeler le 115. Vous verrez que c'est extrêmement difficile de les joindre parce qu'ils sont très sollicités, à mon avis, et il y a peu de personnel, je suppose. On demande à la personne à côté d'appeler 115 pour savoir s'il peut rentrer ou ne pas rentrer à 10h du soir. C'est tout à fait sympathique de savoir si on va dormir là ou si on va dormir dans la rue, sur un banc ou sous un pont. Voilà. C'est effectivement très spécial. Je pense qu'il faut aller voir ce qui se passe à l'entrée, où effectivement... comme tout à l'heure, j'expliquais aussi, ils n'ont pas la possibilité de manger à l'intérieur. Donc, il faut manger avant, manger sandwich et manger... quand on organise dans nos banques alimentaires, ces gens-là nous demandent très souvent si on a des sandwichs, parce qu'effectivement, c'est à peu près... sandwich, gâteau et boisson, c'est à peu près la seule alimentation correcte qu'ils peuvent avoir.
Il y a des enfants à Rouchy également des...
Oui, bien sûr, oui, il y a des enfants, oui. Lorsqu'il n'y a pas de place en hébergement, puisqu'ils sont sortis des appartements une fois qu'ils sont déboutés de la CNDA, ils se retrouvent à la rue, donc il y a effectivement des enfants à Rouchy. Je crois que c'est il y a une quinzaine de jours, il y a une maman qui sortait de la maternité avec un bébé de 3 jours qui s'est présenté à Rouchy. Donc on leur a quand même trouvé, enfin une place leur a été trouvée ailleurs après, mais un bébé de 3 jours pouvait rentrer à Rouchy, oui, bien sûr. Pas de souci.
Thibaut,
en faisant quelques recherches sur le centre de Rouchy, un des problèmes qui revenait sur des articles qui dataient de 2014, c'était que la gestion était confiée en partie à une société de sécurité.
Oui.
Ce qui faisait que sur certains moments de la journée, il y avait la présence uniquement de vigiles sur place,
oui,
donc des personnes qui sont pas vraiment formé.
Non, pas du tout.
Non, situation. Ça a évolué depuis.
Alors, il y a un travailleur social, une assistante sociale. Moi, je les ai vus un soir. Après, je ne pense pas qu'ils soient là toute la journée. Ils sont là peut-être au moment de l'accueil uniquement, mais pas sur la journée. Non, après, il n'y a personne parce que de toute façon, c'est fermé. Hein. Les gens rentrent le soir à 9h et partent le matin à 8h30. Alors, il faut savoir aussi que quand les gens quittent à 8h30, il n'y a pas de petit déjeuner prévu sur place. Ils peuvent aller à Notre-Dame de l'accueil, je crois. Mais les enfants, eux, s'en vont à l'école le ventre vide. Hein, quand il y a des enfants, parce que le temps de prendre le bus et le temps de rejoindre leur école, ils n'ont pas le temps d'aller de prendre quoi que ce soit. Donc, ce sont des enfants qui arrivent à l'école avec rien. Donc, certaines écoles essaient de... il y a des endroits où on connaît bien les collègues, où on a pu travailler ensemble quelquefois, et on essaie de leur prévoir quelque chose. Mais les enfants n'ont rien, effectivement. Ce sont les enfants actuellement qui sont très pénalisés. Je trouve ça très grave parce qu'il y a une convention des droits de l'enfant qui existe quand même, où on dit que tout enfant doit être protégé par l'État et que même si ses parents ne peuvent pas, c'est l'État qui doit se substituer. Et ça, malheureusement, ce n'est pas appliqué. Et bon, un jour, j'ai interpellé la préfecture sur ce sujet et il m'a été gentiment répondu « Bah oui, mais les parents sont responsables de leurs enfants, donc après tout, donc à faire attention, c'est à eux de ne pas les laisser ou repartir. »
Avant de parler de ce qu'on peut tous faire pour faire bouger les choses, on écoute le titre « Who Knows ?» C'est un titre de Protégé en featuring avec Chronix.
And it's a protege, eh? Yeah. Chronix, how where you say, eh?
Yeah. Okay. Oh, yeah.
Who suppose. I'm pleased to be chilling in the West Indies. Jah provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Green leaves.
When me see Jah, me see a way. Drastically straight from hypocrisy, I say, hey. Every man to them own a philosophy. I live the proper way and then me read a chapter daily. Man, they in a city hungry and no eat. And food they down a country, just a drop off of the tree then. You see, say poverty no real then. Is what the reasoning revealing.
Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows. Sending love to my friends and foes.
Hello.
And I suppose.
Hello.
Chilling in the West Indies. Jah provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Green leaves, yeah.
When the rain pits a pot on the roof. Herb just a steam, pepper pot on the stew. Life is a dream if you got gratitude. So go tell the regime them can't stop where we do now. Information you think on your own. Or else you're a slave to the things that you know. What do you know if you learn every day? So be careful of things where you say.
Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows. Sending love to my friends and foes.
Hello.
And I suppose.
Hello.
I'm pleased to be chilling in the West Indies. Jah provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Green leaves.
Africa in our soul, but a Jah in our heart. It is of importance for I and I gather. If we cannot show now a balance that we had, how do we propose then to carry it abroad? Then I go to Ethiopia and you not have a plan. The building of a nation and a helper on. Every one a lover, one a man is just a man. It shall be a coronation when we land, land, land.
Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows.
Yeah, man.
Sending love to my friends and foes.
Hello.
And I suppose.
Hello.
I'm pleased to be chilling in the West Indies. Jah provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Green leaves.
Vous êtes toujours dans Le Sous-Marin sur les ondes de campus et nous sommes toujours en compagnie de Martine Pasto, présidente de l'association Soleil 49, une association qui aide les sans-papiers. Avant de parler de ce qu'on peut tous faire pour faire bouger les lignes, Martine Pasto, vous vouliez revenir sur Rouchy.
Oui, je voulais rapporter une petite précision d'eux-mêmes. Donc, pour dire qu'à Rouchy, il y a aussi des gens qui ont obtenu l'asile, qui ont obtenu le statut de réfugié et qui donc devraient être logés et avoir des appartements. Et certains, ils sont quand même depuis pas mal de mois où ils n'ont rien. Et ils attendent indéfiniment jusqu'à ce qu'on leur trouve un logement. Alors qu'on sait qu'à Angers ou sur le Maine-et-Loire, il y a énormément de logements libres un peu partout. Eux viennent encore coucher là parce qu'on ne leur a rien trouvé. Et je voudrais aussi spécifier que lorsque les gens sont en demande d'asile, c'est-à-dire qu'au tout début, quand ils arrivent, la loi prévoit qu'ils doivent être hébergés, toucher un petit pécule. Et actuellement, les conditions ne sont pas non plus requises. Il y a pas mal de gens qui sont en demande d'asile et qui ne sont pas hébergés. Donc, ils sont hébergés chez des compatriotes ou des gens, des bénévoles qui acceptent de les héberger, puisque l'État ne remplit pas, bien sûr, sa fonction, enfin, du moins la préfecture d'Angers, ne remplit pas sa fonction et ne donne pas à chacun les droits qu'il doit avoir.
Et alors, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens lambda, on peut faire pour faire bouger les lignes, bouger les choses ?
Alors là, après, ben, c'est un petit peu différent. D'abord, il y a le vote. Hein. On peut toujours voter. Hein. Je crois que ça, c'est important, surtout actuellement. Et puis, voilà, il faut arriver à ce que les lois soient appliquées. Donc, je pense que la manifestation, les manifestations à venir, je pense qu'il y en aura d'autres. Et on espère que ça va se prolonger dans la durée si l'État ne nous écoute pas, si la préfecture ne nous écoute pas. C'est bien de faire aboutir ces revendications. C'est-à-dire que chacun soit hébergé, qu'il ait certains, donc ceux qui ont légalement le droit de l'être, et puis aussi ceux qui sont à la rue, parce que dans les gens qui sont à la rue, un certain nombre, la plupart même, sont toujours en recours, en deuxième recours, soit auprès de l'OFPRA, soit auprès de la CNDA, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement clandestins non plus. Et on a tendance, comme ils n'ont plus de titre de séjour, puisqu'à Angers, la préfecture place systématiquement les gens en situation prioritaire, donc ils n'ont pas de titre de séjour, ils n'ont plus aucun droit, ni financier, ni d'hébergement, mais ces gens sont toujours en recours. Et nous avons hébergé dans des hébergements que nous avons en particulier des gens qui ont obtenu l'asile en deuxième recours, CNDA par exemple. Donc les situations ne sont jamais complètement désespérées. Et c'est là que le fait que les gens ne soient pas hébergés n'est pas acceptable.
Alors, il y a une solution, c'est l'engagement associatif. L'autre solution, c'est aussi aller manifester, comme les 300 personnes qui sont allées manifester.
Bien sûr, j'espère qu'on est un peu plus de 300. Je pense qu'on est un peu plus de 300, mais peut-être qu'il en faudra, oui, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, peut-être. Mais nous, on demande déjà l'application de la loi, uniquement déjà dans un premier temps, l'application de la loi. Et puis après, l'application de conditions humaines normales. Il est absolument intolérable que des enfants puissent être à la rue. Il y a des règles. L'État doit se substituer aux parents s'ils ne peuvent pas le faire. C'est une règle qui est dans la Constitution. Donc, je ne vois pas pourquoi on laisse ces enfants à la rue. Pour moi, c'est absolument inadmissible.
Mercredi dernier, donc la manifestation était appelée par plus d'une trentaine d'associations, organisations différentes. Qu'est-ce que ça a donné? On sait que 4 personnes ont été reçues et derrière...
Bien, pour l'instant, ça n'a rien donné. Mais de toute façon, moi, je ne m'attendais pas à ce que cela donne quelque chose. Parce qu'en plus, les gens qui ont reçu la délégation ne connaissent pas forcément très bien les dossiers ni les situations. C'est des situations complexes, c'est sûr. Et puis, je pense que la préfecture se plaît à les complexifier pour encore un peu moins aider. Je pense que sur Angers, sur le Maine-et-Loire, il n'y aurait aucune difficulté à héberger les gens. On le voit bien, qu'ils soient avec ou sans papier, hein, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient en cours de demande d'asile, qu'ils soient déboutés, il n'y aurait aucune difficulté. Nous avons actuellement un certain nombre de communes qui se sont mobilisées pour nous proposer des logements et nous arrivons à héberger sans trop de difficultés certaines familles. Après, ce qui n'est pas normal, c'est que l'on se substitue à l'État. En fait, et que, bien sûr, c'est tout bénef pour l'État, hein, puisque ce ne sont pas eux qui paient, les gens le font à titre gracieux, et c'est là que les règles ne vont plus non plus, puisqu'on n'a pas non plus, nous, à se substituer à l'État, en fait.
C'est ce que racontaient d'ailleurs des personnes qui ont pris la parole pendant cette manifestation. Manifestation qui, en fait, a rassemblé des personnes de 15 à 60 et plus, puisqu'il y avait des représentants de l'UNEL, par exemple, le syndicat lycéen. Et donc, les personnes qui prenaient la parole témoignaient du fait que eux, en tant qu'indépendants, en tant que personnes, hébergeaient eux-mêmes des migrants. C'est quelque chose que vous ne voulez plus voir et que malheureusement vous attendez à revoir pendant des années.
Bien, c'est quelque chose qu'on aimerait bien ne pas voir, bien sûr, mais après c'est vrai qu'il est difficile de laisser quelqu'un à la rue. J'évoquerai le cas d'un jeune Syrien là, qui se promène de maison en maison tous les soirs alors qu'il va être convoqué à l'OFPRA et avoir un statut de réfugié. Il n'a pas été hébergé. Il faut savoir que les personnes seules, en particulier les femmes ou les hommes qui arrivent seuls, on leur propose rarement d'hébergement. Donc, ils ne doivent un abri le soir que grâce à leurs compatriotes ou grâce à des associations ou nous qui, parfois, lors d'une réunion, on se trouve là et on leur emmène dormir chez nous parce qu'effectivement, c'est intolérable d'être à la rue à cette saison. En plus, même si encore cette année, on a la chance qu'il ne fasse pas froid, mais l'humidité, voilà, c'est pas possible.
Mélissa, toi, tu as fait un deuxième micro-trottoir. Tu allais demander aux Angevins ce qu'ils étaient prêts à faire. C'est à peu près ça?
Bah oui, j'aurais demandé qu'est-ce qu'à leur niveau, ils pouvaient faire pour aider les migrants. Et ils étaient pleins de bonne volonté. Ils ont proposé pas mal de choses. Il y a les associations qui reviennent, après les dons à petite échelle, nourriture, vêtements, tout ça. Mais le micro-trottoir parlera très bien pour moi.
Que vous seriez prêt à faire pour aider les migrants, les réfugiés, voire les sans-abri?
Faire des dons?
Bah oui, sans doute des dons et leur donner oui de l'argent ou même des vêtements ou de la nourriture si ça peut les aider pour continuer de vivre quand même.
Faire des actions avec des associations, des choses comme ça, je pense que c'est déjà pas mal. Après, enfin pour moi, c'est plus du ressort des gouvernements de faire quelque chose. Nous, on est plus de l'appoint. On ne peut pas mettre des grosses infrastructures en place pour tous ces gens-là. Bon, on peut toujours faire des choses, mais ça ne peut pas être des choses énormes, quoi.
Aider des associations, hein, tout ce qui va être organisation humanitaire, des trucs comme ça, enfin, s'il y a sur Angers, quoi.
Bah, faire une association.
Ouais, une association ou mettre de l'argent de côté pour les aider.
Les associations, quoi, les pièces jaunes.
Bah, je leur donnerai des sous.
Enfin, moi, perso, je les aiderais à trouver un endroit où dormir ou je sais pas. Enfin, je les aiderais comme je peux.
Je les hébergerais.
Moi, réellement, aller discuter avec eux d'abord parce que. Bah, discuter quand on peut. Parce qu'on connaît rien de ça, de leur situation. Donc après, c'est difficile de les aider pour nous, vu notre âge.
Pouvoir peut-être aller voir s'il y a des locaux ou pour les, pouvoir les aider.
Bah, donner de l'argent quand on les voit dans la rue. Après moi, je pourrais pas accueillir personnellement des réfugiés chez moi puisque mon appart me le permet pas.
Déjà, faut qu'on soit au courant des associations qui veulent aider ces migrants. Et comme ça, je sais pas, on peut donner de l'argent à ces associations.
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien.
Ça pourrait être genre donner des habits, des choses comme ça. Pourquoi pas faire des collectes alimentaires? Il y a des petites actions qui coûtent à personne et qui peuvent se faire facilement. Tout ce qui est nourriture, d'habits, vêtements, ça je pense que ça peut se faire et enfin, personnellement, je serais prêt à faire ça. Voilà.
Martine Pasto, oui. Ça vous rassure quand vous entendez ça? Ça vous motive?
Oui, ça me rassure, ça me motive. Je ne manque pas de motivation depuis 10 ans que je travaille sur le sujet. Oui, je trouve ça rassurant parce qu'on a l'impression que les gens ont envie d'aider malgré tout. Alors, c'est vrai que l'information ne circule peut-être pas suffisamment, mais il faut savoir que toutes les associations qui sont sur Angers, y compris la nôtre, hein, il y a aussi la Ligue des droits de l'homme, il y a le Secours catholique, il y a le Secours populaire, Emmaüs, enfin, toutes les associations existantes sur Angers, sont prêtes bien sûr à accepter tous les dons possibles, que ce soit en vêtements, en argent, en aide matérielle aussi, des gens qui peuvent venir donner un coup de main s'ils en ont envie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, je pense que les gens sont assez peu au courant de ce qui se passe et de ce qui se fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure en fait.
Eh ben alors, on va rappeler qu'une manifestation aura lieu mercredi prochain devant la préfecture,
voilà,
18h.
18h,
c'est bien ça.
18h.
Quelles sont vos attentes par rapport à cette manifestation?
Eh bien, j'espère que les Angevins seront nombreux à venir nous soutenir, puisque lorsqu'on entend les micro-trottoirs, tout le monde est prêt à aider. Donc, ce serait bien une présence, une importante présence, ce serait bien, de façon à montrer à Madame le Préfet que les gens ne sont pas insensibles à la situation des migrants, quelle que soit leur situation, hein, d'ailleurs papier ou sans papier, parce que la situation peut être la même. J'espère que les gens seront là. Et puis, moi, je lance un appel aussi à tous ceux qui sont prêts à apporter leur aide, que ce soit financière, matérielle, en vêtements aussi, ou aussi des choses très importantes auxquelles on ne pense pas toujours, en produits d'hygiène, parce que ce sont des choses, comme je disais tout à l'heure, ce sont des gens qui souhaitent rester dignes, mais pour rester dignes, il faut aussi pouvoir se laver et avoir du savon, du shampoing et autre chose de ce genre. Donc effectivement, les personnes qui sont prêtes à aider, ça ne coûte pas grand-chose. Quelqu'un disait que ça ne coûtait pas grand-chose à chacun. Effectivement, ça ne coûterait pas grand-chose à chacun, mais si chacun apportait quelque chose, on pourrait effectivement, ce serait beaucoup pour nous, ça ferait beaucoup. Il y a 145 000 ou 150 000 Angevins, je crois, sur Angers. Si chacun apportait ne serait-ce qu'un euro, ça nous permettrait d'aider davantage et de payer aussi les cartes de séjour, parce que ça, c'est une chose, quand les gens sont régularisés, que l'on oublie un petit peu. Il faut savoir que chaque personne régularisée doit débourser 550 euros plus un timbre fiscal donné avant, donc 600 euros par carte de séjour. Actuellement, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir leur carte de séjour quand ils sont régularisés, parce qu'au niveau des associations, on ne peut plus aider, ce sont des sommes trop importantes, et comme les gens n'ont effectivement jamais eu l'occasion de travailler ou n'ont pas pu travailler, puisqu'ils n'avaient pas de titre de séjour avec autorisation de travail, bien sûr, ils sont dans des situations extrêmement difficiles, même régularisés après, même pour se régulariser définitivement.
Le sous-marin revient juste après Ivan Ave avec le titre The Circle. Hugo vous parlera d'Alain Juppé. Tommy rumbling for money rolls. My hands looking for something to hold. My mind running like butter on toast. I'm getting heated like a lung full of smoke. Like yo. On a day to day, I'm steady trying to mold this paper mache. Trying to offer you my brain with all the shapes that it make. It's lame staying in the blocks, what a waste of crayons. I've been trying to get it like I'm dimming the light slow. Keep my soul, but still fill up this pothole. I seen them ride those fads to the end station. Go ahead and chase it. I know this shit moves to psychos. I'm good. Yeah. I don't really fuck with triangles no more. Toujours dans le sous-marin sur les ondes de campus. Et tout de suite, la vigie, c'est l'instant du goût.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Hugo, tu vas nous parler d'Alain Juppé, homme politique de droite qui fait partie évidemment des Républicains. Il est aujourd'hui au plus haut dans les sondages et comme il se plaît à l'évoquer, il a l'opinion derrière lui, qu'elle soit de droite ou même de gauche. Hugo, tu as voulu faire un petit retour en arrière, un flashback sur cet homme pour nous rappeler d'où il vient.
Alain Juppé. Ce nom-là résonne à nos oreilles comme un cri dans une grotte sans fond. C'est un nom qu'on entend, qui revient, qui, comme un écho, s'estompe, un peu. Mais c'est marrant de crier dans une grotte et d'entendre son écho. Alors on recommence, c'est rigolo, et revoilà le nom comme par miracle. Alain Juppé est un homme politique de la première heure. Il a commencé en 76 en étant un proche de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Il est maire de Bordeaux depuis 95. Il a connu une petite interruption de son mandat de maire entre 2004 et 2006, mais sinon, il a toujours été là, présent, au taquet. Et puis, ce ne sont pas ces 2 ans de pause qui vont changer le merveilleux bilan de la ville de Bordeaux. Tout va bien à Bordeaux. C'est une ville calme, merveilleuse et où il fait beau. Et même du beau temps, Juppé en est responsable. Exactement comme Macron est responsable face à la pluie qui tombe. La seule chose qui ne va pas à Bordeaux, c'est son équipe de foot. Mais t'inquiète, Alain, ça, c'est pas ta faute.
Comment ça, l'équipe de foot ? Ça va très bien.
Bref, à Bordeaux, on est chez les Bisounours, ça fait rêver et on veut tous y aller. On se met même à rêver que son maire soit notre président. On voit fleurir sur Twitter des hashtags Juppé 2017, signe que notre Alain séduit même les Jones. Ou le coquinou, il séduit les Jones. Mais vous savez bien que je suis un journaliste hors pair, critique et qui se pose des questions. Et du coup, oui, je me suis posé la question. Pourquoi oublie-t-on le début de ma chronique quand je dis qu'Alain a aussi géré la ville de Paris avec Chirac ? En fait, ces 2 ans d'interruption de mandat de maire bordelais n'ont pas été si anecdotiques que cela. Ce qu'il s'est passé à Paris, c'est, et attention, jeu de mots, capital pour la suite de sa carrière.
Bravo pour le jeu de mots.
Merci. En fait, ces 2 ans d'interruption... durant ces 2 années, il ne s'est pas mis en RTT ni même parti aux Caraïbes. Il a été obligé de quitter son poste. Et c'est là que son passé le rattrape. Alain Juppé est emmêlé dans de sombres affaires qui ont secoué la vie politique française pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Tout d'abord, revenons en 95. Chirac vient d'être élu à la présidence de la République. Il fait toute sa campagne sur le thème de la fracture sociale entre les riches et les pauvres, les élites et les prolétaires. Jacques Chirac a une très bonne cote de popularité, Juppé aussi, tout va bien. Mais c'était sans compter sur le canard enchaîné. Le journal révèle au monde que Juppé occupe à un prix misérable un magnifique appartement dans le 6e arrondissement de Paris et qu'il écrit des lettres à la mairie de Paris pour que son fils paie un loyer moindre. Alors, quand on vient de faire toute sa campagne sur la fracture sociale, ça passe mal. Il se retrouve avec toute l'opinion publique sur le dos et une instruction est ouverte pour prise illégale d'intérêt. Le juge accepte cependant de classer le dossier si Juppé quitte son appartement dans les plus brefs délais. Donc, nous sommes en 95 et Juppé est maire de Bordeaux, mais avec toute l'opinion publique remontée à bloc contre lui. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Juppé était donc un très proche de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris ?
Mais bien sûr.
Alors, pour nos auditeurs, parce que vous êtes des journalistes hors pair, les contribuables ont financé des membres du parti politique de Chirac et Juppé sous couvert d'emplois à la mairie de Paris. Évidemment, les deux copains ne pouvaient pas ignorer ce qu'il se passait, Juppé étant le secrétaire général du RPR, donc l'ancien parti des Républicains, et adjoint aux finances à la mairie. Un procès est ouvert contre ces faits et le tribunal juge que Juppé a délibérément recouru à des arrangements illégaux. En gros, il a fait son putain de truand et a magouillé pour gagner de l'argent. Il est condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Évidemment, il démissionne de son poste à la mairie de Bordeaux. Certains estiment que Juppé a pris dans la gueule tout ce que Chirac ne pouvait pas prendre étant donné qu'il était protégé par son poste de président de la République. Alain Juppé est un personnage de la vie politique assez étonnant. Tandis que les Français reprochent aux hommes politiques de ne pas évoluer, d'être restés dans l'ancien temps, de ne plus être crédible ni honnête, lui, alors qu'il a trempé jusqu'au cou dans des affaires plus que douteuses, il est là, il revient et fait le beau devant les caméras. Et tout le monde adore ça.
Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Des chantes de romance qui te vantent des dimanches, qui te fait ses voyages.
Magnifique ambiance pour terminer. Martine Pastot, ça vous fait réagir ce billet?
Oui, ça me fait sourire parce que je trouve effectivement il est très haut dans les sondages actuellement et je trouve que les Français ont la mémoire courte, mais ça je crois qu'on a l'habitude de ce genre de choses en France, hein. Malheureusement on cache très vite le passé et on revient un homme neuf. Suffit d'écrire aussi un livre, hein, pour se faire oublier et dire qu'on a changé, mais je crois que non, au fond, on n'a pas changé, hein. On ne change pas.
Merci beaucoup Martine Pastot d'avoir participé à cette émission. On rappelle la manifestation devant la préfecture mercredi 18h à l'appel de plus de 30 organisations et associations différentes, dont Soleil 49, dont vous êtes la présidente. On remercie également Yann, Thibault, Hugo et Mélissa qui ont participé à cette émission, Quentin qui était à la réalisation et Étienne qui était à la programmation comme d'habitude. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour un nouveau sommaire.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.